Ce chapitre dans lequel nous allons réfléchir ce matin, le chapitre 17 de Ézéchiel, combine à la fois parabole et ce que je peux appeler, d'ailleurs c'est dans la Bible, est écrit une énigme. En fait, dans ce chapitre, vous avez deux types d'illustrations, la parabole et l'énigme. Ézéchiel prend les deux et en fait une amalgame. Ce chapitre se lit comme une sorte de puzzle, une énigme où l'auteur veut que le peuple raisonne et solutionne dans leur esprit. Un commentateur définit une énigme de façon suivante. Une énigme est une déclaration qui cache la vérité qu'il veut communiquer. Une énigme cache en elle la vérité qu'elle veut vous communiquer. Il veut que vous la trouviez et par le calcul mental, alors que la parabole est un peu différente. Ce commentateur dit aussi au sujet de parabole, la parabole élucide de clairement la vérité en y jetant une lumière fraîche. Ainsi, une énigme cache la vérité pour que vous essayiez de résoudre, alors qu'une parabole déclare la vérité en sorte que la lumière brille sur lui. Sur elle, pardon. Maintenant, dans ce chapitre 17 d'Ézéchiel, vous avez deux choses. Vous avez une parabole. Ézéchiel tente à jeter une lumière sur cette vérité, mais en même temps, il semble tendre à la retirer. Je suis sûr que, et quand vous avez lu ce chapitre, n'est-ce pas, et vous êtes un peu confus et perplexe devant certaines choses qui semblent cachées devant vous, alors regardons. Que cache-t-il et que révèle-t-il? Vous avez deux aigles et puis vous avez l'image d'un cèdre. Et puis, vous avez une vie. Nous allons examiner tout d'abord à ces deux aigles étrangers et dans le verset 1 à 21. Le passage nous introduit ce premier personnage politique en illustration. Nous voyons un grand aigle avec une belle plume venir en vol à la terre du Liban et atterrir en sommet à la cime d'un cèdre. Cet aigle courbe sa tête chauve et avec son bec aquilin, enlève le plus haut rameau du cèdre. Ensuite, il bat ses ailes de nouveau et il s'envole vers la terre d'où il était venu et il emporte ce rameau, dit la Bible, à un pays de commerce et une terre de richesse. Comme le dit autrement la Bible, une ville de marchands. Maintenant, à la place du cèdre, avant qu'il parte et emporte ce rameau dans le pays de marchands, il prend un rejeton du pays et le place dans une pépinière. Avant qu'il parte, il défriche et laboure le terrain pour cette vigne et, si vous vous référez, il donne toute opportunité possible, tout l'avantage possible pour que ce rejeton puisse grandir et que ce rejeton puisse porter du fruit un jour. Le passage nous parle du fait que ce grand, immense même, élégant aigle a pourvu tout à ce rejeton. Il a planté dans un sol fertile, un très bon terrain, et lui donna une noix abondante, en fait toutes les conditions nécessaires pour sa croissance maximum. L'aigle lui a donné. La parabole signifie que c'est dans ces grandes conditions dans lesquelles il a été planté et dans ce grand soin que l'aigle a pris de lui qu'il a commencé à croître. Il s'est étendu, il a produit des branches. Mais si vous regardez le verset 6, vous verrez quelque chose de très caractéristique à ce sujet. Regardez le verset 6. Il dit, « Ce rejeton poussa et devant un cep de vigne étendu, mais une taille abaissée. » Je crois que c'est un point très important. toutes choses, qu'aucune vigne n'aurait espéré, ont été faites à ce rejeton, et il a grandi, il a porté du fruit. Mais encore, la parole de Dieu témoigne qu'il reste à une taille abaissée. Au fil de lecture de cette parabole, nous constatons que cette vigne que l'aigle a plantée a désiré, plus que l'aigle lui a pourvu pour sa vie. Il a commencé à réaliser, alors qu'il avait une autre source de vie. Comme nous l'avons lu, nous constatons que la vigne s'est éloignée de son premier fournisseur, le grand aigle, et il a envoyé ses pousses vers le deuxième aigle. L'oiseau, le deuxième aigle, est décrit dans un langage similaire à celui au sujet du premier aigle. Il est décrit comme un grand et puissant aigle. Il est décrit comme ayant des ailes magnifiques, tout comme le premier aigle. Mais il y a une différence entre le premier et le deuxième aigle. Le deuxième aigle était aussi grand que le premier dans sa puissance, mais n'était pas si grand dans sa gloire. Une autre différence et que nous pouvons trouver ici, c'est que le premier aigle a fait tout ce qu'il a pu pour faire croître la vigne, mais le deuxième aigle, il n'avait rien fait pour cette vigne. Premier aigle a fait l'emplacement de où il était planté et l'approvisionnement de l'eau et le bon terrain dans lequel il a été et le soin dans lequel il a été élevé. Mais comme nous lisons dans cette parabole, nous constatons que le deuxième aigle n'a absolument rien fait pour la vigne. Pourtant, cette vigne est devenue ingrate à l'égard du premier aigle et au profit du deuxième aigle. Et promis à ce dernier son allégeance. Le verset 7 nous dit, si vous le regardez, il y avait un autre aigle, grand, aux longues ailes, au plumage épais, et voici que du parterre où il était planté, cette vigne étendit avec avidité ses racines de son côté et dirigea ses branches vers lui. Le sort de cette vigne est prévisible. L'herbe de l'autre côté était toujours plus beau et plus vert. Et en désirant la vie que cet autre aigle pourrait donner à cette vigne, elle s'est mise à chercher à avoir quelque chose de plus, quelque chose qu'elle n'avait pas. Et ce qu'il avait fait réellement, c'était de rejeter tout ce que le premier aigle lui avait donné. Ce deuxième aigle n'a absolument rien fait pour elle. Et tout ce que la vigne a réussi à faire a été de ressusciter la colère du premier aigle. Après avoir fait tous ses travaux, tous ses efforts et toutes ses ressources, et lui avait témoigné de compassion, ce premier aigle a été rejeté. La colère de ce premier aigle, nous le trouvons, est bien soulevée. Et il vient, et il va déchirer, et la déraciner de son sol. Et il va dévorer et détruire. Regarde verset 9. Dis, ainsi parle le Seigneur, Éternel, prospérera-t-elle? Après que l'aigle l'a planté là où il est, et il nourrit, soigné, et lui a donné l'eau, et veillé sur lui, sur elle, cette vigne commence à se tourner à l'autre aigle. Cet acte ingrat et peu reconnaissant. Dieu pose cette question. Va-t-il prospérer? Le premier aigle n'arrachera-t-il pas ses racines? N'enlèvera-t-il pas son fruit afin qu'elle se dessèche, afin que toutes les feuilles qu'elle a poussées se dessèchent? Et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour l'extirper de ses racines. Ce ne demandera pas beaucoup de force d'imagination, n'est-ce pas, pour voir que ce grand aigle sera sans tarder de venir la détruire. vous pouvez dire que la vigne est stupide. N'est-ce pas? Eh bien, mais c'est plus que cela. La vigne ne se comporte pas stupidement, elle se comporte absolument de façon suicidaire. Maintenant, vous êtes peut-être déconcerté à ce que cette parabole et l'histoire signifieraient dans nos temps. Mais les auditeurs dans le temps d'Ézéchiel auraient sans doute reconnu immédiatement la véritable interprétation de cette histoire. Permettez-moi de vous la donner. Le premier aigle, le premier grand aigle qui vient et prend cette branche du haut du cèdre, puis plante la vigne et prend le rameau à Babylone, et le roi Nabucodonosor de Babylone. Si vous avez lu le livre d'Ézéchiel, peut-être que vous vous souvenez comment Nabucodonosor est venu à Jérusalem comme un grand aigle et a fondu sur la proie et s'est rendu au sommet de l'arbre qui est à Jérusalem et a pris en captivité le roi de Juda, Joachim. Alors ce premier grand aigle nous parle de Babylone. Maintenant, regardons, permettez-moi de prouver. Il est important que vous sachiez que cela est vrai. Tournez à Jérémie, chapitre 48. Et rappelez-vous que Jérémie est un contemporain du prophète Ézéchiel. Jérémie 48 est le verset 40 qui parle de Nebuchadnezzar, de l'Empire babylonien. Car ainsi parle l'Éternel, voici qu'il voit comme l'aigle et qu'il déploie ses ailes sur Moab. Ézéchiel 49, verset 22 dit aussi, voici que tel l'aigle, il monte, il vole, il déploie ses ailes sur Botsra, et le cœur des héros est d'homme, et en ce jour-là comme le cœur d'un homme, d'une femme en travail. Si nous avons du temps, nous pourrons nous tourner dans Daniel 7, verset 4. Et Daniel, dans une de ses visions, voit l'empire babylonien qui est surgi au-dessus de la mer. Et il a été de la forme d'un lion ayant les aigles, les ailes d'aigle, les ailes de l'aigle. Ainsi, cet aigle nous parle non seulement de l'empire babylonien, mais aussi le roi Nebuchadnezzar. Il est représenté dans cette parabole comme un être volant aux ailes puissantes, se battant vers le sommet du cèdre. Alors que, qu'est-ce que le cèdre? Le cèdre est la ville de Jérusalem. Pour être plus précis, le cèdre est la maison royale du roi David. Alors, qu'est-ce que le grand aigle? Il vole le haut de l'arbre, dit Ézéchiel, et brise avec son bec la plus haute branche du cèdre. Et donc, si le cèdre est Jérusalem, plus particulièrement la maison royale de David, la plus haute branche de l'arbre de cèdre est le roi de Juda. À ce jour, alors Nebuchadnezzar, en y venant, qu'a-t-il fait? Il va à Jérusalem, il arrache le roi de Juda. Comme certains le savent, le livre d'Ézéchiel nous indique que Joachim a été emporté à Babylone en même temps que le prophète Ézéchiel. Et ils ont tous été tenus dans le camp de concentration. C'est ce qui nous est raconté au sujet de l'aigle en s'envolant vers l'arbre. Il arrache ce haut rameau de l'arbre, puis l'emporte dans un pays de commerce et une ville de marchands. Pas trop difficile de deviner le fait qu'il s'agit là de la nation de l'Empire babylonien qui était le centre commercial du monde de l'époque. Maintenant, permettez-moi de raconter un peu d'histoire encore. Après la destruction de Joachim, comme on vient d'en parler, après que Nebuchadnezzar l'a pris de Jérusalem et l'a emmené en captivité à Babylone, Nebuchadnezzar a pris l'oncle de Joachim, dont le nom était Matania. Nebuchadnezzar a changé son nom en Sédécias. Puis il a mis Jérusalem comme un roi vassal. Si vous souhaitez, son roi fantoche dans l'asservissement à lui-même. Avez-vous ce qui se passe ici? Le grand aigle qui perche sur le cèdre arrache la branche, prend Joachim à Babylone. Mais avant qu'il prenne Joachim, il sème quelques graines et il plante une vigne là où il arrache la branche de cèdre qui est Jérusalem. Cette graine qu'il sème est Sédécias, cette marionnette qu'il veut politiquement établir sur la terre de Jérusalem. Sédécias est décrit comme une vigne croissant, en la vigne étendue d'une faible tâche, faible taille. Regardez verset 5. Il prit un rejeton du pays et le plaça dans une pépinière. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un sol. Maintenant, si vous savez quelque chose sur la biographie du roi Sédécias, vous saurez davantage. Il ne possède aucune des qualités qui s'est fait pour être roi réussi ou administrateur réussi. Comme nous l'avons lu dans l'histoire de sa vie, nous savons qu'il n'était ni fidèle à Dieu Israël, ni à son suzerain païen Nebuchadnezzar. Il a été fidèle à absolument personne. Aussi rapidement qu'il a été établi par le roi Nebuchadnezzar et fixé sur Jérusalem pour y régner comme sa marionnette, il l'a été, et pour commencer à tramer avec l'Égypte la façon de renverser l'empire babylonien. Aussi rapide qu'il a été fixé, il l'a été, et pour vouloir se libérer du joug de Babylone. Il en était ainsi, le premier aigle. Et tout va devenir clair, n'est-ce pas? Puis il y a le deuxième aigle, et que nous lisons dans ce passage. Il est grand, mais ce n'est pas aussi grand que le premier aigle. Et la raison pour laquelle il était, c'est que le deuxième aigle dont il nous parle est l'Égypte. Il est grand, en particulier le pharaon Ophra. La raison pour laquelle nous trouvons l'Égypte dans ce passage est due au fait que le roi Sédécias a essayé de faire une alliance avec l'Égypte en vue de renverser le joug de Babylone. Cela a été la politique étrangère de Sédécias. Mais il s'était trompé. Car, comme vous le voyez, cet aigle n'a pris aucun soin de la vigne. Cet aigle n'était pas intéressé de la vigne. Il était désintéressé. Tout comme l'Égypte a été désintéressée à Juda ou désintéressée au renversement de Babylonien. En fait, ce grand aigle, si grand soit-il, n'était pas du tout égalable à l'empire babylonien. Maintenant, toutes ces choses que je viens de vous dire peuvent sembler très peu claires pour vous, n'est-ce pas? Mais à une personne vivant en Palestine, dans l'ancien Proche-Orient, au temps d'Ézéchiel, ce n'était très clair, comme une caricature politique et le dessin animé que nous trouvons chaque jour dans le journal. C'est ce dont le prophète parle, et il est si clair, et ce qui est révélé comme l'aspect de cette parabole et cette prophétie. Vous pensez qu'il est source de confusion, pourtant, c'est ce qui est révélé dans ce passage. Ce qui est caché, il en est une autre affaire. Il y a une énigme dans ce passage. Et cette énigme est encore plus difficile à scruter et encore plus profonde dans son sens. Mais si vous voulez venir avec moi ce matin, je crois que si vous fouillons dans celle-ci, nous trouverons quelque chose de fondamental, quelque chose d'intrinsèque à l'Église d'aujourd'hui, et à un individu chrétien d'aujourd'hui, et en fait au monde actuel en général. Dévoilons et déchiffrons ce code de l'énigme dans l'Ézéchiel. Je crois que c'est très important. Eh bien, si vous regardez ce passage, vous verrez que ce grand aigle vole vers Liban. Et il y a quelque chose de très important dans cette partie, parce que vous pouvez dire, n'est-ce pas, eh bien, tous les cèdres se sont trouvés en Liban. C'est vrai, mais il y a bien plus que cela. Dieu est en train de parler en code. Si vous voulez tourner avec moi un instant, 1er roi, chapitre 7, verset 7, 2, nous trouverons et déverrouillerons ce code. 1er roi chapitre 7, et le verset 1 d'abord, il dit « Quant à sa maison, Salomon l'a bâtie pendant 13 ans et il acheva ainsi toute la cité royale. Et il bâtit également la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 30 coudées. Et ainsi de suite. Et vous obtiendrez tous les détails de la maison de Salomon. Cela est un indice de l'énigme. Ce à quoi je veux tirer votre attention est ceci. Le verset 1 de Salomon parle de construction de sa maison. Il bâtit également la maison de la forêt du Liban, qui était le nom de maison de Salomon, la maison de la forêt du Liban. Si vous devez partir, lisons ensemble Jérémie, de chapitre 22 et le verset 23, vous trouverez à nouveau, avec un grand L, le Liban étant le nom de la maison de Salomon. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que Ézéchiel, le Saint-Esprit de Ézéchiel, invite les auditeurs de cette parabole, vous, à penser que Liban n'était pas juste un arbre, pas juste une ville de Jérusalem. Mais il voulait que le peuple remonte en arrière et pense à qui, en fait, a établi la dynastie davidique dans le pays de Juda et de Jérusalem. Ézéchiel veut que les gens remontent plus haut dans leur histoire et posent la question. Qui, en fait, nous a donné ce roi? Que ce soit Sédécias, ou Joachim, ou plus loin David, ou Salomon. Si vous continuez à monter, qu'est-ce qui nous a amené de la terre d'Égypte jusqu'à cette terre promise? Qui est-ce qui a nettoyé le pays et nous a donné la terre de Canaan? Si vous pensez à ça, vous aurez à dire, eh bien, c'était Dieu. C'est Dieu, n'est-ce pas? Pensez à ce sujet. Il y a un paradoxe. Car, dans un sens, ce qui nous est révélé est ceci. Le premier aigle vole au sommet du cèdre, arrache une branche et amène cette branche, roi Joachim, en Babylone. C'est le premier aigle dont nous avons parlé. Puis c'est Nebuchadnezzar et l'empire babylonien qui a semé la graine, plante, la vigne, et roi Sédécias à Jérusalem. Et c'est lui qui contrôle les choses pour lui. Mais ici, nous avons quelque chose entièrement différent. Nous avons un parallèle où Dieu demande aux gens de la population à considérer qui a effectivement fait tout cela. Oui, ce grand aigle est le roi Nebuchadnezzar. Mais si vous posez la question un instant, qui a commencé à établir la dynastie davidique? Qui a débuté? Qui au début vous a pris en Égypte et fait venir en terre de Canaan? Et puis en fin de compte, cette question, eh bien, qui travaillait sur notre terre à l'heure actuelle? Qui est-ce qui vraiment laisse aller en captivité? Qui prend le contrôle de toutes ces affaires? J'espère que vous pouvez voir que le sens profond de cette parabole est de voir que Dieu lui-même est en fait en partenariat avec l'Empire babylonien pour accomplir sa volonté. Ce qui est révélé dans ce passage, c'est que le premier grand aigle est Nebuchadnezzar et l'Empire de Babylone. Mais la chose qui est cachée comme énigme, c'est la suivante. Dieu est juxtaposé avec ce grand aigle. Dieu peut être considéré comme Nebuchadnezzar en ce moment pour faire l'œuvre de Dieu. Il est déconcertant. Et permettez-moi de le prouver à vous, au cas où vous doutez de moi. L'image de cette vigne plantée, c'est que rien n'a été épargné à son sujet, n'est-ce pas? Il a été planté près des eaux, et il a nourri, et il lui a donné tout ce dont il a besoin, un parfait sol. Mais, si vous allez à Ésaïe, chapitre 5, Ésaïe 5, versets 1 à 7, Et vous avez la parabole d'une vignoble. Ici, nous avons une autre parabole. Et il dit, « Oh, donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. » Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile et il a défoncé, ôta les pierres et il planta un cépage délicieux. Et il bâtit un tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve. Et puis il espéra qu'elle produira des raisins. Mais elle a produit des fruits infects. Or, donc, maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore fait à ma vigne et que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects? Oh donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Et je ferai des brèches dans sa clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Et je la réduirai en ruines. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent pas tomber la pluie sur elles. Et la vigne de l'Éternel, des armées, c'est la maison d'Israël et les hommes de Juda. Et c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré la droiture et voici la forfaiture. La justice et voici le cri du fils. Avez-vous vu le parallèle? C'est elle qui plante la vigne à Jérusalem, est en train de faire tout ce qu'il veut. L'aigle parle entre Nebuchadnezzar. Pourtant, Dieu, dans Isaïe, dit, c'est ce que j'ai fait pour Israël. En fait, si vous voulez aller avec moi au psaume 80, vous verrez encore le parallèle entre ces paraboles et ce que Dieu est en train de faire. Psaume 80, versets 9 à 12. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, et tu as chassé des nations, et tu as planté, et tu as fait place nette devant elle. Elle a enfoncé ses racines, elle a rempli le pays. Et les montagnes étaient couvertes de son ombre, et sa ramure était comme les cèdres de Dieu. Elle étendit ses rameaux jusqu'à la mer, et ses rejetons jusqu'au fleuve. Avez-vous cela? Non seulement est-il en train de dire que Dieu a veillé sur Israël dans Jérusalem, mais il a dit aussi que Dieu a fait sortir Israël en dehors de l'Égypte, nettoyer la terre de Canaan et chasser tous les ennemis, et a installé et veillé sur eux, et ils sont là. Cette énigme devant vous décrit plus l'histoire de la relation d'Israël avec Dieu que son courte histoire à ce jour avec Babylone. Maintenant, l'important est le suivant. Sédécias a raté complètement le point essentiel de ce qui s'était passé dans le monde à ce moment. Sédécias a brisé son serment de loyauté avec Nebuchadnezzar. Permettez-moi à présent de conclure en vous citant 2e chronique, chapitre 36. Rappelez-vous les images. C'est que l'arbre a été planté par le premier aigle, mais l'arbre a commencé à croître, à suivre le deuxième aigle et a fait son allégeance à celui-ci. Dans 2e chronique, le verset 36, chapitre 36, verset 13, nous dit, il se révolta, en parlant de Sédécias, même contre le roi de Nebuchadnezzar qui lui avait fait prêter serment de par Dieu. Notez que avait fait prêter le serment de par Dieu. Puis il raidit sa nuque et endurcit son cœur au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cette vigne que Nebuchadnezzar avait plantée à Jérusalem s'est dirigée vers le roi de Pharaon de l'Égypte. Mais avant cela, Nebuchadnezzar avait fait le roi Sédécias prendre un serment qu'il le suivrait et qu'il serait son roi vassal à Jérusalem. Non seulement il a fait prêter le serment, mais il a fait prêter le serment au nom de Dieu. Maintenant, je voudrais développer encore un peu d'heure, ensemble avec vous, dans le temps d'Ancien Testament, lorsque vous avez fait un serment au nom de Dieu, savez-vous ce que vous êtes en train de faire? Vous invitez Dieu Jéhovah dans l'accord qu'il soit la caution, à mettre en œuvre les malédictions du pacte qui y sont attachées. On vous demande toujours de lire les petits caractères de « au bas de tout accord » et « au bas de chaque pacte » dans le Proche-Orient, l'Ancien, toutes les malédictions étaient soulignées et en fonction de la personne à qui vous jurez dans le pacte, cette caution est appelée à mettre en œuvre les malédictions soulignées si vous n'avez pas rempli vos obligations en vertu du pacte. Cela est très difficile à comprendre pour nous, notre époque, mais permettez-moi de vous donner une illustration. Il était une fois un document de traité d'alliance entre le roi hittite de Mursilis et un homme appelé Dupitesup. Et il conclut le pacte ensemble par ces mots. Les termes du traité et le serment qui sont inscrits sur cette tablette, si Dupitesup n'honore pas ces mots du traité et le serment, que ces dieux le détruisent avec sa personne, sa femme, son fils, son petit-fils, sa maison, sa terre et tout ensemble avec tout ce qu'il possède. Avez-vous cela? C'est ce qui est au bas de l'alliance. Ces hommes païens juraient par le Dieu. Et le roi Sédécias, en accord avec le roi Nebuchadnezzar, a juré qu'il aurait allégeance à lui. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il cherche l'Égypte. J'espère que ça se comprend pour vous, mais ça se comprend mieux. Et quand on sait que ce n'est pas seulement la rébellion de Sédécias contre son suzerain d'alliance, Nebuchadnezzar, c'était le problème, mais nous avons vu que ce grand aigle typique de Nebuchadnezzar caractérise aussi Dieu. Comprenez-vous cela? Lorsque Nebuchadnezzar et Sédécias juraient par le nom de Dieu, ils ont invité Dieu à venir et à prendre sur lui les malédictions et à agir sur eux. Ce n'est pas la peine de dire, de Deutéronome 17, 16, vous vous souvenez très bien, que l'Israël ne retournera pas en Égypte pour chercher les chevaux. Mais maintenant, c'est ce qu'il est en train de faire. Le péché est le péché. De quelle façon que ce soit, par lequel vous voulez le regarder ou colorer. Mais c'est encore pire, inexcusable péché pour ceux qui connaissent Dieu et ceux qui sont dans une relation d'alliance avec Dieu et connaissent sa parole. La chose sur cette parabole est ceci. Et si vous l'oubliez, vous manquez tout, comme c'est des chiens, vous manquez tout. Nebuchadnezzar est en train de prendre charge de la Palestine et de la mettre en captivité. Et il a été le jugement de Dieu. Verset 19 dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. C'est le serment envers moi qui l'a méprisé. Et c'est mon alliance qui l'a méprisé, qui l'a rompu. Et je ferai retomber cela sur sa tête. » Il n'a pas reconnu que c'était le plan de Dieu. Et l'Égypte serait détruite. Et Sédécias serait détruit. Et tout le vigne et la terre seraient détruits à cause de cela. Et il a échoué de le voir. Peut-être il ne voulait pas le voir. Qu'aurait-il dit, Sédécias, comme excuse? Parmi des éventualités, voici quelques-uns. Ouf! Pourquoi tiendrais-je le serment alors que c'était avec un incirconcis? N'est-ce pas trop injuste que je ne suis pour rien pour ce malheur? Qui sait que c'est la volonté de Dieu que je me révèle à ce royaume impie et violent? C'est pour le peuple libre que je m'en vais pour Égypte, quoi de mauvais, etc. Chers amis, n'y a-t-il pas quelque ressemblance dans cette affaire avec votre vie chrétienne? Vous avez fait le serment à Dieu quand il vous a envoyé Jésus-Christ pour vous sauver. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'êtes-vous en train de faire? Regardez. Comment Israël s'était détourné de Dieu dans le passé pour aller vers l'Égypte? C'est vraiment effrayant. Parce que le parallèle avec nous, aujourd'hui, est insurmontable. L'Égypte, vous le savez, c'est un type du monde. Et nous devons nous poser la question, à la lumière de cette parabole, je sais que nous sommes tous occupés, mais nous avons besoin de nous arrêter un peu et de nous poser cette question. Chaque fois qu'un problème vient dans notre vie, et chaque fois que nous avons des problèmes, et que faisons-nous et où nous allons-nous? Chaque fois que l'entraînement du Seigneur nous survient, n'est-ce pas que nous nous tournons vers l'Égypte? Il semblait terrible, n'est-ce pas? La nation est détruite, le temple détruit. Il semble désespérant. Mais je tiens à vous dire que ce n'est pas désespérant. Je tiens à vous inviter à lire avec moi 2 Samuel chapitre 7. Si quelqu'un cherche, vous pouvez lire. Deuxième Samuel, chapitre 7, il s'agit de verset 16. Quelqu'un de Isaac? Donc, tout se passe comme si on ne pouvait plus revenir en arrière. Tout était perdu. N'y a-t-il aucun espoir? Dieu soit loué, il y a. Même si un fils de David a été pris en Babylone, même si un fils de David, Sédécias, a été mèche avec l'Égypte, ne recherche pas Dieu, mais cherche une superpuissance étrangère. Il y avait de l'espoir. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu qui honore sa promesse. Alléluia.
Amen.
Notre péché et notre échec ne font pas dérailler la souveraine volonté, dessein de Dieu. Savez-vous, il est un Dieu de sa parole, différent des hommes. Il a promis qu'il n'y aura jamais d'absence d'homme, d'un homme de la famille David, qui s'assiérait sur son trône à jamais. Cela nous amène à ce tendre futur rameau des versets 22 à 24. Quel point culminant! Dieu lui-même dit, je vais venir et je vais faire cela. Alléluia. Il ne va pas envoyer Nebuchadnezzar à son serviteur cette fois pour prendre le rameau et planter une autre vigne dans la Palestine, type Sédécias. Il va venir lui-même et il va planter la plus belle vigne, la plus tendre rameau de tout Israël. Et il dit, au verset 22, qu'il va le mettre dans la montagne la plus élevée de tous, la plus sublime. Il ne travaillera pas pour lui, la parapluie, pas par le biais des intermédiaires, non. Il va venir lui-même et s'occuper des choses. Si vous regardez verset 23, vous pouvez voir qu'il est dit que cette branche se transformera en arbre noble et que cette branche amènera la bénédiction à tous qui s'approcheraient pour ses fruits et l'ombre. Et qu'elle fournirait un abri aux oiseaux de toutes sortes. En d'autres termes, ce que pendant ces milliers d'années, la politique en Palestine, n'est-ce pas vous constatez, n'était pas en mesure de réaliser ce droit, il sera assis sur le trône de David, viendrait faire en un instant de son règne. Verset 23 dit, encore, que grâce à tout cela, le monde entier saurait le plan salvateur et puissant de Dieu. Il dit que tous les arbres sur terre et toutes les nations vont comprendre que la montée et la chute des empires sont dans les mains de Dieu souverain. Existe-t-il aucun espoir pour Israël après que le Dieu l'a jugé?
Dieu soit loué. Il y a.
On pourrait penser qu'il n'y en a pas, parce que cette parabole est trop terrible. Mais il y a. De même que Nebuchadnezzar a installé une fois Sédécias à Jérusalem, de même Dieu dit, je vais venir, faire mon travail, je vais venir et je vais installer mon peuple, mon propre chef, et sur le mont Sion. Contrairement à la vigne rebelle Sédécias, qui se fanait, ce cèdre que Dieu plante et peut prospérer. Il sera fructueux. Et il portera des raisins partout de Dieu. Qui est cette branche? Qui est cette vigne? Certains disent, c'est un mystère. Comment est-il mystère? Il saute clairement à nos yeux. À mon avis, ce n'est pas mystère. Ce dont Dieu parle ici est clair. Il ne s'agit pas d'une question d'envoyer des armées forcées de Babylone et de ramener le roi. Il ne s'agit pas d'une question de sauver Sédécias de l'Égypte ou de l'établir, ou même amener un nouveau roi, que ce soit Zorobabel ou un autre. Mais ce que Dieu est en train de parler ici, de nouveau, c'est quelque chose de très grand qui surpasse tout le reste. Louange à Dieu. De ce que notre échec, ne fait pas dérailler sa fidélité. Écoutez ces paroles. Laissez-les faire des sensations dans votre cœur, comme ils l'ont fait en le mien. L'ange est venu et dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura jamais fin. Souvenez-vous le mari et son magnificat dans Luc 1. Qu'a-t-il dit? Elle a dit exactement ce que Ézéchiel a dit. Il a renversé les puissants de le trône et élevé les humbles. De qui parle-t-elle? Elle parle du Messie. Le petit-fils de David, un rameau. Ésaïe chapitre 11 dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Ésaïe 53, 2, nous avons appris la semaine dernière, il s'est élevé devant lui comme un rejeton et comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Zacharie 6, 12 parle de la germe, c'est son nom. Et il germira là où il est et battra le temple de l'Éternel. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans l'Apocalypse, Jean donna à Jean la vision de Christ exalté, élevé. Et dans l'avenir, le chapitre 22 dit, « Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Pouvez-vous dire encore, et que je ne sais rien de cette parabole, son nom est loué. Sur ce jour sombre, solitaire, sur la colline de Golgotha, où a été élevé, savez-vous ce qu'il a fait? Et dans son grand nid, il a fait reposer tous les oiseaux de toutes sortes, et toutes les nations, et toutes les langues, et tous les peuples. À l'arbre du calvaire, il a amené les arbres de forêt du monde entier pour les y abriter. Non seulement il est mort pour son propre peuple, juif, mais il a dit, « Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Quand il est venu pour la première fois, il a été rejeté. Il a été crucifié. Mais ce n'est point ce dont Ézéchiel parle ici. Mes amis, quand il reviendra pour régner sur le monde avec une verge de fer. Il y aura des pleurs des méchants pendant qu'il essuie les larmes des fidèles enfants. Il reviendra dans la puissance afin qu'il prenne le royaume et administre les affaires de l'univers pour la gloire de Dieu et pour la bénédiction de toute l'humanité, d'Israël, de Jérusalem, de la Palestine, de Samarie. Et le grand arbre en suprématie des nations païennes se sera abaissé. Et le faible arbre de Juda se sera élevé de nouveau et pour se développer et se fructifier. Le royaume de ce monde entiers deviendront le royaume de notre Dieu et notre Seigneur. En guise de conclusion, en 1970, la France a célébré le 100e anniversaire de la fondation de la Troisième République. Mais il y avait un groupe qui ne l'a pas célébré. Ils étaient les royalistes. Ils pensaient que la monarchie devait être encore là. Et dans la une de le journal, on lisait ceci. 100 ans de la République et 100 ans de calamité. Un éditorial dans Aspect de la France a déclaré comme suit. Aujourd'hui, plus que jamais, chaque penseur patriotique, chaque homme intelligent, peut seulement vouloir mettre un terme à la longue période où l'absence du roi a été cruellement sentie. Le Seigneur soit loué. L'absence du roi est cruellement sentie aujourd'hui. Mais pour un monde qui crie la paix et la prospérité, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs viendra et sa présence se fera sentir.